Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Baptiste Lénard. L'économie aussi est un sport de combat. C'est pourquoi chaque vendredi, deux invités viendront débattre d'un sujet qui divise la sphère des économistes entre controverses théoriques et débats politiques. Aujourd'hui, l'argent magique existe-t-il ? Je suis à la tête d'un État en situation de faillite. On se souvient de la phrase de François Fillon en 2007. La dette publique atteignait alors 67% du PIB. Cette année, elle devrait culminer à 115% de la richesse nationale. Et pourtant, peu de voix s'élèvent pour s'en émouvoir. Alors a-t-on trouvé de l'argent magique, selon l'expression d'Emmanuel Macron ? Faudra-t-il rembourser la dette ? Sommes-nous, oui ou non, en train de compromettre notre avenir ou celui de nos enfants ? Autant de questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h en compagnie de deux économistes, Laurence Cialhomme, professeur à Paris-Nanterre, et Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Europe. À 14h50, un nouveau rendez-vous, Racontez-moi l'écho, nous emmènera sur les sentiers de la fiction et fera dialoguer l'économie et l'imaginaire. Merci d'écouter France Culture et bienvenue dans Entendez-vous l'écho.
Il faut réduire la dette. Nous devons nous débarrasser de cette dette qui est un poison pour l'économie française, un poison pour l'argent des Français, parce que l'argent dont je vous parle, ces charges de la dette qui augmentent, c'est l'argent des Français. Je vais vous dire mon sentiment profond, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il faut réduire la dette.
Au total, nous avons mobilisé près de 500 milliards d'euros pour notre économie. Ces dépenses se justifier et se justifie en raison des circonstances exceptionnelles que nous venons de vivre. Mais elles viennent s'ajouter à notre dette déjà existante. Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant les impôts. Ce plan de reconstruction se fera avec l'Europe, qui, après des débuts timides, s'est hissée à la hauteur du moment.
Changement de ton entre février 2018, lorsque le ministre de l'économie Bruno Le Maire fustigeait la dette, et aujourd'hui, bonjour Laurence Cialhomme et Jean-Marc Daniel.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi parle-t-on d'argent magique, Laurence Cialhomme ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression ?
Alors je pense que derrière l'idée d'argent magique, il y a l'idée qu'effectivement la question de la création monétaire a quelque chose de magique. Donc il faut savoir que l'essentiel de la création monétaire est le fait des banques. C'est-à-dire que quand une banque vous octroie un crédit, en même temps, elle vous octroie le crédit et elle crédite votre compte de dépôt de, je sais pas, 100 000 euros d'un côté, elle augmente son bilan des deux côtés. Et les seules limites qu'elle a à cela, c'est quand même assez magique, puisque vous et moi, on paye avec la dette des banques. Hein. Et c'est magique en ce sens que vous et moi, on peut pas imposer notre propre dette comme moyen de paiement. Donc si vous voulez, elles ont cette espèce de pouvoir extraordinaire qui est qu'elles peuvent créer ex nihilo de l'argent en octroyant des crédits. Les seules limites qu'elles ont, c'est d'une part qu'elles-mêmes entre elles, elle se paye pas avec la dette des banques, elle se paye avec une dette supérieure qui est la dette de la banque centrale. Et l'autre limite, c'est les réglementations qu'on leur impose en capital ou en liquidité qui peuvent être des contraintes sur la création monétaire.
Ce qu'il faut préciser, Laurence Cialhomme, c'est que c'est l'un des moyens pour financer l'endettement, c'est ce qu'on appelle la monétisation, c'est ce processus de création monétaire dont vous parlez.
Alors là, on est au niveau de la banque centrale. Si vous voulez, on est dans un système hiérarchique à deux niveaux. Vous avez les banques qui ont ce pouvoir, qui est un pouvoir extraordinaire, et vous avez la banque centrale qui, elle, émet une monnaie qui n'est plus convertible, avec une conversion obligatoire, si vous voulez, dans un métal précieux. C'est donc une monnaie fiduciaire qui ne repose que sur la confiance, dont on ne peut exiger la conversion en aucun actif particulier. Donc là, c'est encore plus extraordinaire, si vous voulez, parce qu'elle peut vraiment l'émettre sans contrainte véritable. Et les banques, entre elles, elle se règle avec la dette de la Banque centrale. Donc si vous voulez, c'est un peu comme si nous, notre rapport aux banques est à peu près le même que les banques ont avec la Banque centrale.
Jean-Marc Daniel, vous êtes d'accord avec cette première définition de la création monétaire ?
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de dire. Ce qu'il faut bien voir pour compléter ou pour préciser ce qui vient d'être dit, c'est des trois éléments. Le premier élément, c'est que ce sont les banques commerciales qui créent la dette, hein, y compris la dette publique. Et on a parlé des financements des États. La banque commerciale, c'est elle qui finance en premier lieu l'État. Et les États, ils mettent, alors en France, c'est l'agence France Trésor qui s'occupe de ça, et elle les met régulièrement devant ce qu'on appelle des spécialistes en valeur du Trésor, qui sont des banques qui sont autorisées à souscrire la dette publique. Et dans ces spécialistes en valeur du Trésor, il n'y a pas la banque centrale. C'est vraiment le système bancaire commercial, les banques de second rang qui sont là et qui, d'une certaine façon, traitent l'État un peu comme un particulier qui veut acheter une maison ou une entreprise qui veut investir. L'État émet de la dette et le système commercial. Et alors après, la monétisation, elle va intervenir lorsque les banques vont réagir à l'acquisition qu'elles ont faite. Elles ont à ce moment-là deux possibilités. Soit elles placent cette dette qu'elles viennent d'acheter auprès de leurs propres clients, c'est-à-dire elles font appel à l'épargne de leurs clients. C'est les contrats d'assurance vie, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'essentiel de l'assurance vie que détiennent les Français, c'est de la dette publique. Ce que détient le fonds souverain norvégien, qui est le premier investisseur étranger sur la dette publique française, ça a été acheté par des banques et ensuite c'est placé auprès du fonds souverain.
Donc soit l'épargne, soit la monétisation.
Soit la monétisation, c'est-à-dire elle le garde parce qu'elle considère qu'elle peut, ou alors elle s'en débarrasse en allant auprès de la banque centrale qui effectivement va à ce moment-là faire une opération d'acquisition de la dette publique et d'augmenter son bilan. Il faut voir que normalement la monétisation, et c'est le deuxième élément, la monétisation est plus ou moins interdite. Alors en France, on a beaucoup parlé de la loi de 73. Il y a eu toute une époque où tout le monde mettait en avant la réforme de la Banque de France qui avait été faite en 1973. Il y a le traité de Maastricht. Normalement, la vocation de la Banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation. Ce n'est pas de racheter systématiquement. Et donc, c'est toutes ces politiques nouvelles. Et
on va voir effectivement, Jean-Marc Daniel, pas à pas, les différents risques effectivement de cette monétisation.
Une troisième remarque. Ce qui est important dans ce qui s'est passé il y a 50 ans, c'est l'abandon de l'or. C'est-à-dire que quand on parlait d'argent magique au 19e siècle, on parlait d'alchimistes. Michel Chevalier, qui est le grand professeur d'économie au Collège de France, quand il dénonce la politique de la Deuxième République de fuite en avant dans la dette, il dit il se croit des alchimistes. Il croit que par la dette, ils vont être capables de créer du pouvoir d'achat, de créer de la richesse, parce que la référence, c'est l'or. Or, depuis 50 ans, cette barrière n'existe plus. Avec, et on aura l'occasion de revenir là-dessus, je pense, quand même une traduction de l'angoisse que cela provoque dans la population qui se mesure au travers de l'évolution du cours de l'or. C'est-à-dire, il y a 50 ans, l'or c'était 35 dollars l'once, aujourd'hui c'est 2000 dollars l'once. Et donc, l'or a été jeté, et pourtant l'or est là comme une espèce, non pas de garde-fou, mais comme une espèce de voix extérieure qui dit à tout le monde qui gère la finance, vous allez dans le mur.
L'une des questions, c'est effectivement l'inquiétude que peut susciter cette création monétaire à cause des éventuels risques que le processus peut comporter. La Banque Centrale Européenne devra-t-elle rembourser cette dette, Laurence Thialen? C'est l'une des questions.
Alors que ça ne sera pas la Banque Centrale, la question c'est plutôt est-ce que les États rembourseront cette dette?
Oui. La question des États, on la posera plus tard, mais la Banque Centrale Européenne, est-ce qu'elle est redevable envers quelqu'un de cette création monétaire? C'est ça qu'on a besoin de comprendre
absolument
pour l'instant.
Absolument pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, le passif d'une banque centrale n'a rien à voir avec le passif de n'importe quel autre agent dans l'économie. C'est en cela qu'elle détient un pouvoir extraordinaire, si vous voulez. Parce qu'en fait, c'est pas une dette contractuelle. Quand une banque détient de la monnaie centrale, elle est pas dans un processus de négociation. C'est pas une dette contractuelle au sens véritable du terme. C'est un actif supérieur. C'est la liquidité ultime dans la communauté de paiement. Et d'ailleurs, une banque centrale peut parfaitement fonctionner. Historiquement, il y en a, hein. Avec un capital négatif, enfin je veux dire avec juste de la dette au passif.
Et donc c'est en cela que vous considérez que la création monétaire n'est pas dangereuse, à condition toutefois que la confiance dans la monnaie ne soit pas rompue.
Alors voilà, ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas de loi véritablement en économie, au sens de loi comme vous la trouvez en physique, par exemple en sciences dures. Il y a des configurations institutionnelles qui font que dans certains cas, les relations par exemple entre l'État et la banque centrale peuvent se modifier complètement, notamment les relations de dépendance ou de subordination. Quand vous regardez l'histoire des banques centrales sur longue période, il y a, et vous lisez par exemple les travaux de Charles Goodhart, qui est quand même assez, comment dire, assez incontestable de ce point de vue-là, il définit des régimes de banques centrales. C'est-à-dire, il y a eu des régimes où les banques centrales étaient relativement indépendantes des gouvernements. Et puis, il y a eu des régimes où on a une relation de beaucoup plus grande dépendance, qui vont généralement avec des régimes de beaucoup plus grande régulation financière. Hein, c'est ce qui s'est passé à partir des années 30. Hein, en gros, vous avez eu le Trésor américain jusqu'en 51, par exemple, et dans une relation de vassalisation. La Banque centrale américaine, pardon, le fait par rapport au Trésor américain. Bon. Et puis, vous avez des périodes comme celles qu'on vit depuis, disons, l'avènement de l'indépendance des banques centrales, depuis la doctrine d'efficience des marchés, si vous voulez, tout ça va ensemble, si vous voulez, où là, les banques centrales sont devenues indépendantes des pouvoirs publics, l'idée étant qu'il fallait absolument éloigner au maximum l'action de la Banque centrale du cycle électoral, notamment, et de la possibilité d'utiliser la Banque centrale à des fins de réélection, par exemple. Et donc, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période qui est une période de renversement et de mise en place d'un nouveau régime pour deux raisons. Le mur de la dette. C'est-à-dire qu'on est dans des régimes de croissance où pour un point de croissance, c'est l'OCDE qui dit ça, dans les pays de l'OCDE, vous avez 1,15 de dette. Privée, hein, essentiellement. À un moment, ce n'est plus possible parce que quand il y a trop de dette privée, ça étouffe complètement l'économie. Vous voyez, et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'impératif de transition écologique qui nécessite des investissements massifs qui ne peuvent pas se faire dans le contexte dans lequel on est.
Alors, on va aller pas à pas dans, effectivement, dans les différents sujets que vous suggérez, Laurent Cialhomme, mais d'abord sur cette question de la dangerosité ou non de la création monétaire. Pour vous, Jean-Marc Daniel, il faut s'inquiéter du gonflement du bilan de la Banque Centrale Européenne ?
Oui, je crois qu'il faut s'en inquiéter pour trois raisons. La première raison, comme on vient de le dire, la Banque centrale, elle est redevable de dette. Enfin, elle n'est pas redevable de dette vis-à-vis des particuliers. Si ce n'est, elle est redevable quand même la forme de dette qu'elle a vis-à-vis des particuliers, c'est la confiance dans la monnaie. C'est-à-dire, ce que le particulier a comme contact avec la Banque centrale, ce sont les billets de banque. Et donc, ces billets de banque, il faut préserver leur pouvoir d'achat. Et donc, le premier enjeu de la Banque centrale moderne, c'est de préserver ce pouvoir d'achat au travers de lutter contre l'inflation. Alors, c'est assez récent. Hein. Des banques centrales, il n'y en a pas depuis très longtemps. Hein. La première du XVIIe siècle. Avant, il y avait l'or qui était là pour ça. Et puis, bon. Et la banque centrale, elle est apparue d'abord pour financer la dette publique et puis ensuite pour essayer de faire fonctionner le système monétaire et financier.
Donc, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que le bilan de la BCE représente 40% du PIB de l'eurozone et devrait peut-être rejoindre la barre des 50%. C'est trop pour vous, Jean-Marc?
Alors, il n'y a pas de limite à ça parce que vous regardez, par exemple, les banques centrales dont le bilan dépasse 100% du PIB, vous en avez deux qui sont montrées du doigt, c'est le Japon. Le Japon, on peut dire beaucoup de choses sur l'économie japonaise, mais il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas d'angoisse particulière, et c'est la Suisse. Or, s'il y a quand même un pays que l'on peut associer à une forme de mythologie monétaire et financière et de rigueur, c'est quand même la Suisse. Or, la Banque nationale de Suisse a un bilan. Bon. Donc, en réalité, derrière tout ça, la question qui se pose, c'est le deuxième élément, c'est cette création monétaire est-ce qu'elle est source d'inflation ou est-ce qu'elle est source de création de richesse? C'est-à-dire que créer de la monnaie, si vous vous prêtez à quelqu'un qui crée de la richesse, si vous prêtez à une entreprise, si vous prêtez à un État, la question qui se pose, c'est est-ce que cet État va créer de la richesse?
Mais alors, c'est important, cette question de l'inflation, en effet.
Donc, l'enjeu, c'est pas la création monétaire en tant que telle, c'est la qualité de la monnaie qui est créée. Et donc, ce qui devient inquiétant dans ce qui se passe, c'est que de plus en plus, même si on vient de le dire, hein, c'est vrai que la dette privée augmente. Mais il y a quand même une création de cette monnaie qui est... Le dernier élément que je mettrai en avant, c'est que cette monnaie qui met en circulation, un exemple simple, la masse monétaire dont nous disposons, nous, Français, a augmenté en un an de 10%. Bon. Est-ce que la richesse a augmenté de 10%? Non. Est-ce que les prix ont augmenté de 10%? Non. Qu'est-ce qui se passe? La monnaie circule de moins en moins. Et donc là aussi, je pense qu'un des enjeux de tout ça, c'est la perte de confiance que crée ce type de politique au sein de la population.
Est-ce que l'inflation, c'est un risque aujourd'hui, Laurent Cialhomme?
Alors, deux choses. La première, c'est que je ne pense pas du tout que ce soit un risque aujourd'hui, pour des raisons très simples. C'est qu'on est plutôt dans un contexte où le risque, c'est les pressions déflationnistes. Je pense qu'on a plutôt un risque de déflation par la dette. C'est-à-dire que les entreprises sont tellement endettées dans certains pays, pays, les ménages sont tellement endettés. C'est assez rigolo de voir que dans les pays frugaux, dits frugaux en Europe, ce sont les pays les plus, où les ménages sont les plus endettés au monde, jusqu'à 200, plus de 218% du revenu disponible dans le Danemark, je crois. Donc le problème, c'est que dans ces cas-là, quand vous avez des ressources additionnelles, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous essayez de vous désendetter, parce qu'une entreprise trop endettée, c'est une entreprise fragile qui risque de faire faillite.
Ça ralentit l'économie.
Donc voilà. Donc ça veut dire que les risques, c'est la déflation. Il est beaucoup plus difficile de sortir de la déflation, de la baisse des prix, que de l'inflation. On connaît la recette pour sortir de l'inflation. On ne connaît pas la recette pour sortir de la déflation. Aujourd'hui, la BCE, depuis 2013, essaye de faire repartir l'inflation. Elle n'y arrive pas. Les tensions déflationnistes sont très importantes. Donc là, je pense que l'inflation n'est pas un problème. Par ailleurs, je pense même qu'il faudrait qu'on ait un peu d'inflation. Je sais que c'est un espèce de tabou, mais l'inflation a un mérite énorme quand elle est modérée, quand elle est à un niveau tel que les agents continuent à raisonner en termes nominaux, quand elle ne crée pas trop de distorsions. Mais une inflation qui serait à 4%, ça ne pose pas de problème. Au contraire,
ça déprécie. La BCE veut 2% et elle est environ à 1% aujourd'hui.
Oui, mais d'ailleurs, Olivier Blanchard, à un moment, avait dit il faut augmenter, et il avait parfaitement raison, hein, la cible d'inflation. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une cible d'inflation, une inflation un peu plus élevée, il est plus facile d'avoir des taux d'intérêt réels négatifs et donc de reflater l'économie, c'est-à-dire de relancer un peu l'économie. Donc l'inflation n'est pas un mal en soi. Là, ce qui est un mal en soi, c'est une très forte inflation. Aujourd'hui, il faudrait arriver. Et c'est très drôle de voir que souvent, il y a des responsables du directoire de la BCE qui disent qu'ils sont très contents que l'Europe a réussi à se rapprocher un petit peu de sa cible d'inflation. C'est-à-dire au sens où on a réussi à créer un petit peu d'inflation, on est content. Donc si vous voulez, il y a une espèce de dissonance entre le discours qu'on a sur l'inflation et la situation macro dans laquelle on est, qui est une situation fondamentalement où les pressions sont déflationnistes.
Jean-Marc Daniel, il faut redouter plutôt la déflation que l'inflation ?
Non, je crois pas. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'encore une fois, l'inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat de la population. Et le but de l'économie, c'est de satisfaire la population. Je ne connais pas de pays où il y ait des manifestations dans les rues de gens qui disent « augmenter les prix pour soutenir l'action de la BCE ». Je ne connais pas d'endroit où les gens réclament des hausses de prix. Donc, le véritable enjeu, c'est le pouvoir d'achat. Et l'inflation, ça grignote le pouvoir d'achat. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un discours derrière l'action sur l'inflation qui consiste à considérer que l'épargne est un élément négatif de l'économie. Or, l'épargne, à la fin des fins, c'est ce qui finance l'investissement. Ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est qu'il y a égalité entre l'épargne et l'investissement.
On en parlait dans notre émission mercredi. On se disait, oui, justement, il dépend de quelle épargne.
Oui. Alors, je veux dire, il faut en revenir, je pense, à cette sagesse, là aussi, du 19e siècle. Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Je pense que la source de la richesse, c'est le travail présent et le travail futur consolidé sur l'épargne et non pas des manipulations monétaires. Dernier élément que je mettrai en avant, c'est que effectivement, à l'heure actuelle, vous avez une pression sur les prix et cette pression sur les prix, c'est moins monétaire que technologique. Vous avez une forme de ce qu'on appelle déflation technologique. Si effectivement les prix n'augmentent pas, c'est parce que vous avez des progrès techniques et surtout, vous avez eu une phase d'augmentation de la concurrence. Et moi, je pense qu'on ne va pas vers la déflation parce qu'il y a de plus en plus d'économies, notamment l'économie dominante américaine, qui sont en train de revenir en arrière sur les mécanismes de concurrence. Les GAFA sont en train de devenir des monopoles. Et le véritable enjeu, c'est moins la déflation que la réapparition au travers de monopoles d'une menace inflationniste.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
L'argent magique existe-t-il ? C'est le débat aujourd'hui qui oppose Laurence Sialom et Jean-Marc Daniel. Alors je le disais en introduction, en France, la dette publique devrait atteindre 115% du PIB cette année, un seuil jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Laurence Sialom ?
Bah écoutez, dans le contexte actuel de taux très 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 faibles, je pense pas qu'il faille s'en inquiéter. Hein. C'est pas demain que les taux vont remonter. Et d'ailleurs, les dernières déclarations du président du Fed hier ou avant-hier vont tout à fait dans ce sens. Donc ça, il faut pas s'en inquiéter. Non, ce dont il faut s'inquiéter, c'est que la crainte de cette dette fasse que trop vite les gouvernements resserrent les boulons, veuillent maîtriser une fois la crise aiguë passée. La dette publique et donc ne fasse pas les investissements requis dans la transition écologique. Et là, c'est pas un problème de macro, c'est un problème de survie de l'humanité. Donc là, on doit changer absolument de logiciel. D'où la nécessité de repenser, à mon sens, totalement les rapports entre les États et les banques centrales dans cette nouvelle configuration qui est à la fois d'excès de dette privée et publique et de transition écologique.
Est-ce qu'à moyen ou long terme, tout de même, Jean-Marc Daniel, la dette française ne pourrait pas devenir insoutenable ?
Ah, elle sera insoutenable si les taux d'intérêt se mettent à remonter. Il faut bien voir que les États, parce qu'à un moment donné, on disait il faut transformer toutes ces dettes en dettes perpétuelles. Je signale qu'elles sont perpétuelles. Là aussi, depuis le 19e siècle, dont nous sommes indirectement quand même les héritiers, il n'y a inscrit dans les budgets des États que la charge d'intérêt. L'idée qu'on va rembourser la dette est une idée qui a été évacuée à la fin du XVIIIe siècle. On a créé des mécanismes de rente perpétuelle. Donc là, maintenant, il n'y a plus de rente perpétuelle, mais dès qu'un emprunt arrive échéance, il est immédiatement replacé et il n'est pas remboursé. Donc la dette est potentiellement perpétuelle. Le seul enjeu, c'est effectivement cette charge d'intérêt. Or, à l'heure actuelle, les intérêts sont tels qu'elle est très très faible. Il faut bien voir, en France, c'est 38 milliards d'euros. 38 milliards d'euros, sachant que par ailleurs la Banque Centrale, on reviendra là-dessus, reverse les intérêts qu'elle perçoit. Donc il y a 6 milliards qui sont rendus par la Banque Centrale. Donc en réalité, ça coûte 32 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est à peine 2%, c'est un peu moins de 2% du PIB. Il faut voir que quand l'Italie est rentrée dans le SME en 1978, la charge
le système monétaire européen,
la grande question c'était, on va se débarrasser de l'inflation pour être dans le SME. Est-ce que ce sera supportable pour l'Italie? Parce que la charge de la dette publique de l'époque était de 11% du PIB. À l'heure actuelle, l'Italie est le mouton noir avec une charge de la dette qui est aux environs un peu plus de 3,5% vers 4% du PIB, mais vous avez une charge de la dette qui est considérablement réduite. Donc, dans l'immédiat, ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est ce qui se passera si les taux d'intérêt remontent. Et donc, on le voit bien avec ce qu'a dit, par exemple, M. Powell, là. Il a dit, écoutez, dans les conditions dans lesquelles je suis, je ne pourrai plus remonter les taux d'intérêt, parce que si je remonte les taux d'intérêt, j'asphyxie...
Powell, le président de la Fed, la Banque Centrale
Américaine. J'asphyxie complètement. Donc, il dit, je ne peux plus faire mon métier de banquier central, je ne peux plus lutter contre l'inflation, je vais laisser filer l'inflation si l'inflation réapparaît, parce que de toute façon, mon seul enjeu maintenant, c'est d'éviter la banqueroute publique. Et donc, je pense qu'elle est soutenable à court terme, mais elle devient insoutenable à moyen terme. Et surtout, elle déforme complètement le niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a une grande règle, que rappelait d'ailleurs Thomas Piketty dans son livre célèbre sur le capital au XXIe siècle, qui est que le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance, pour qu'il y ait une sorte d'équilibre général de l'économie.
Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Les taux d'intérêt sont très largement inférieurs aux taux de croissance et on ne peut plus les remonter sauf à effectivement rendre la dette insoutenable.
Et on peut se demander aussi si cet endettement est efficace. Est-ce que continuer à creuser les déficits ne permet vraiment de relancer la croissance? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'alimenter des bulles, Laurence Thialon?
La question n'est pas tellement la relance. Pour moi, c'est la reconversion de l'économie. Effectivement, l'énorme masse de création monétaire qu'on a eue depuis la crise de 2007-2008, elle n'a pas du tout alimenté l'économie réelle. Elle a alimenté des bulles financières. L'investissement privé et public est excessivement faible aujourd'hui, complètement atone, à un moment où on a besoin, au contraire, de financement à long terme, d'un engagement très massif sur le long terme, et c'est sur des financements d'infrastructures, des rénovations des bâtiments, de plans de formation au métier de la transition écologique, de ferroviaire, etc. Donc le problème, c'est ça, c'est que vous avez un endettement public qui est considérable. Bon, faut quand même se rendre compte, faut savoir d'où il vient quand même cet endettement public. C'est pas que du laxisme budgétaire, très loin de là. Enfin, je parle en général. Il y a quelques pays, c'est un peu différent. Mais en gros, il y a eu la manière dont les États ont dû gérer la crise de 2007-2008, de substituer la demande publique à la demande privée, le jeu des stabilisateurs automatiques. Donc c'est venu d'abord d'un excès d'endettement privé et d'une socialisation des pertes par le public, et là d'une crise sanitaire. Donc voilà, c'est pour le coup, c'est pas du tout une question de laxisme budgétaire.
Sur les bulles financières, que cela pourrait créer, Jean-Marc Daniel?
Là aussi, deux remarques. La première, tous les États sont pas dans la même situation. C'est-à-dire que les frugaux dont on a parlé, là, les quatre États qui étaient en vent debout contre l'idée de recréer une nouvelle étage de dette au travers de l'Union européenne, ils étaient en excédent budgétaire l'année dernière. Les Pays-Bas et la Suède étaient en excédent budgétaire. Je crois que l'Autriche avait un léger déficit. Mais donc tous les pays n'ont pas été. Donc vous avez un vrai problème d'un certain nombre de pays qui sont en déficit. Donc vous avez la France, vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne. La France étant de l'Union européenne le pays qui avait le déficit structurel. C'est c'est-à-dire celui de long terme, celui qui ne correspond pas aux fluctuations cycliques de l'économie, qui était le plus lourd. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a un vrai problème d'efficacité de la création monétaire. Là, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que la création monétaire ne va pas vers les entreprises, ne va pas vers les endroits où on crée de la richesse. Et elle ne va pas non plus, assez paradoxalement, vers l'inflation. C'est-à-dire que il y a des gens qui disaient, mais c'est pas grave que ça crée pas de la richesse, ça va créer de l'inflation et ça va effacer la dette. Pas du tout. Ça ne va pas vers l'inflation, ça va effectivement vers un certain nombre d'actifs. On rejoint d'ailleurs ce que je disais sur l'or, enfin c'est quand même aberrant qu'une once d'or vaille 2 000 euros. Je sais pas si 2 000 dollars, je sais pas si vous bon et ça va vers l'immobilier dans la plupart des pays. Et donc vous avez juste un économiste qui était Robert Barrault qui expliquait que effectivement lorsqu'on gère mal les finances publiques, ça crée une forme d'inquiétude, d'angoisse et cette angoisse donc c'est ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne fait que les gens vont basculer une partie de leurs avoirs et de leur épargne sous une forme d'épargne de précaution qui va favoriser les bulles immobilières. Et il écrivait à la fin des années 80 que si le trésor public américain continuait et la politique de Reagan la continuait, ça allait faire exploser les prix à Manhattan. Eh bien, je crois que ça s'est assez bien vu, ça s'est assez bien passé. C'est-à-dire que se loger maintenant à Manhattan ou à Londres, c'est devenu impossible, et en partie parce que les gens ont consacré ce qu'ils avaient pour se préserver contre le futur.
Laurent Salam.
Oui. Je pense, pour reprendre ce qui vient d'être dit là sur l'endettement public et que les États ne sont pas tous logés à la même enseigne, je voudrais quand même rappeler que au moment où la crise financière a éclaté, parmi les États qui étaient en excédent budgétaire, il y a eu ensuite des pays comme, comme l'Irlande, l'Espagne, etc., qui se sont retrouvés dans des situations catastrophiques du fait de l'excédent privé, enfin des déficits privés, de l'endettement privé, et notamment de l'endettement de la finance. Je pense vraiment qu'on fait un trop gros focus aujourd'hui sur l'endettement public et insuffisamment sur l'endettement privé. Parce que cet endettement privé, pour éviter l'effondrement de l'économie, notamment parce que c'est un endettement collatéralisé, c'est-à-dire qui utilise des garanties qui sont eux-mêmes des actifs soumis à des prix spéculatifs, comme l'immobilier, fait que les États sont obligés, après, ont les mains liées et sont obligés de socialiser les pertes. Donc, vraiment, je pense qu'il faut faire très attention. Le problème aujourd'hui, essentiellement, à mon sens, c'est l'endettement privé, parce que là, il n'y a justement pas cette possibilité de monétisation comme on l'a pour l'endettement public.
Face à cette dette d'État qui se creuse, l'une des solutions qui est apparue dans le débat public consiste à annuler ces dettes publiques et celles qui sont détenues par la Banque Centrale Européenne. Il faut préciser, Laurent Salam, qu'on parle donc ici des dettes publiques rachetées depuis 2015 par la BCE et non celles qui sont détenues par exemple par les banques ou les fonds de pension.
Bien sûr. Donc ça, c'est une proposition que nous avons fait avec Baptiste Bridonneau dans deux notes Terra Nova, qui était de dire que une solution, une option, aujourd'hui on est face à une situation telle qu'il faut être innovant dans les solutions que l'on propose, serait d'annuler partiellement les dettes publiques que détient la BCE. Attention, pas une annulation pour réduire l'endettement public. Je réduis de 100 milliards, l'État investit 100 milliards dans la transition écologique. Ça permet, alors ça ne ferait pas repartir l'inflation parce que ça, d'abord on est dans une situation de très forte tension déflationniste, ça agit à la fois sur l'offre et la demande, pour peu que ce soit des dépenses à forte intensité de main d'œuvre, eh bien vous reflatez l'économie, c'est-à-dire vous agissez également sur la demande. Donc ça c'est la première chose. Ça ne mettrait pas en cause, je pense, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, enfin, là je pense qu'on a un vrai clivage sur qu'est-ce qui fait la confiance dans une monnaie fiduciaire, donc une monnaie qui n'est pas convertible en or. Moi ce que je crois, c'est que la confiance dans une monnaie fiduciaire, pourquoi est-ce que j'accepte un bout de papier pour valoir 50 euros alors que le coût marginal de ce bout de papier, c'est nul, c'est rien? Et bien, c'est simplement parce que dessus, il y a le sceau d'une institution supérieure et que je pense que demain, après-demain, dans un an, je pourrai toujours utiliser. Et donc, j'ai une confiance dans les interrelations sociales, j'ai une confiance dans la communauté de paiement. Et c'est ça qui fonde fondamentalement la confiance dans une monnaie fiduciaire. Si, par cette proposition, vous permettez de relancer l'économie, de reconvertir vers la transition écologique, les économies, de relancer l'investissement. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous donnez un horizon, en fait, à la communauté de paiement. Vous allégez beaucoup les asymétries entre les États et faut bien voir, si la zone euro, elle éclatera par les peuples, par le vote, parce que vous avez... Et donc, je pense que très loin de détruire la crédibilité de l'euro, au contraire, ça la renforcerait. On connaît la puissance de la parole des banques centrales, hein, le whatever it takes de Draghi. Ben maintenant, il faut que les banques centrales, elles parlent aux populations et elle leur donne un horizon avec ce type de mesures.
Alors ça soulève beaucoup de questions et il y a beaucoup de personnalités qui se sont exprimées sur cette proposition. Jean Pisani-Ferry par exemple, le coordinateur du programme économique du candidat Macron en 2017 a écrit une tribune dans Le Monde dans laquelle il explique qu'annuler la dette c'est toujours en transférer le fardeau à d'autres. Vous êtes d'accord Jean-Marc Daniel ?
Non, je suis pas d'accord avec la position de Jean Pisani-Ferry, mais en revanche j'avais pris position moi aussi dans une tribune, non pas dans Le Monde, mais dans Les Échos, où je disais, je comprends pas très bien cette proposition, et ce, pour deux raisons. La première raison, c'est que de toute façon, la dette que détient la Banque Centrale ne coûte déjà rien à l'État. Puisque, encore une fois, l'État, enfin, la Banque Centrale rembourse à l'État, y compris dans les endroits où la Banque Centrale est privée. Hein. Aux États-Unis, je rappelle que la Banque Centrale appartient à des opérateurs privés, elle a été créée privée. Mais le statut fait que chaque fois qu'elle reçoit de l'argent sous forme d'intérêt, elle les rétrocède. Donc, pour l'État, le fait que la Banque Centrale détienne la dette, c'est comme une annulation de dette sur le plan de sa vie au quotidien. Et donc, bon, potentiellement, elle est déjà annulée. Le deuxième élément, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous créez une sorte de, là aussi, de ça devient magique. C'est-à-dire, vous, d'un coup de plume, vous faites disparaître quelque chose. Et donc, une fois, je pense que ça...
Ça envoie le mauvais message.
Ça envoie un mauvais message. Alors qu'il faut dire aux gens, écoutez, il y a un effort à faire, effectivement. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut sauver la planète, en particulier l'humanité, plus que la planète d'ailleurs, l'humanité sur la planète, parce que la planète, elle survivra. Et donc il faut sauver. Il y a un effort à faire. Bon, cet effort, il doit être fait, je pense d'ailleurs, par des gens qui sont rationnels, c'est-à-dire des entreprises privées plutôt que par des conglomérats d'entreprises publiques qui nous ont donné le plan calcul, le Minitel, le Concorde, etc. Donc si on doit sauver la planète, c'est plutôt par des gens qui réfléchissent que par des gens qui courent après la Légion d'honneur. Mais fondamentalement, je pense qu'il faut dire la vérité et que annuler cette dette qui ne porte rien sur le plan du fonctionnement de l'État, il aura toujours la même charge d'intérêt final à verser.
Et ça pousserait à la gabegie.
Je prends un exemple simple. Au Japon, le Japon, 220% de dette publique, on pourrait penser qu'il veut le faire. Charge d'intérêt 2019, zéro. Pourquoi ? Parce que 40% de la dette est détenue par la Banque Centrale, donc ça revient. Et pour le reste, le Japon a émis beaucoup d'obligations, c'est ce qu'on appelle les obligations à coupon zéro. Bon, il a émis beaucoup dans des techniques financières qui fait qu'il peut se permettre de ne pas avoir de charge d'intérêt.
Pourquoi, effectivement, annuler ses dettes et non pas les repousser indéfiniment ?
Alors, je pense que c'est, effectivement, ça peut sembler équivalent. Il y a juste une toute petite différence, c'est qu'en annulant la dette, vous dégagez des centaines de milliards au niveau de l'Europe qui permettent justement d'enclencher la reconversion écologique des États qu'ils ne font pas justement quand ils sont acculés par une dette dont on est quand même dans un dogme, il va bien falloir la rembourser rapidement. Enfin, je veux dire, il faut regarder les dernières déclarations de François Villeroy de Gao. Enfin, je veux dire, et donc si vous voulez, ça a un effet performatif le fait de dire il va falloir la rembourser, même si de fait on sait bien tous qu'on fait rouler la dette, on la rembourse pas. Mais je pense que opérationnellement ça change considérablement les choses. 7 milliards d'un côté de dividendes qui sont reversés aux États et de l'autre côté des centaines de milliards qu'on peut investir dans des projets qui ne seront pas financés par le privé. Pour une raison très simple, c'est que la finance privée ne peut pas tarifer les externalités. Or, quand vous faites vous financez des biens publics mondiaux, vous financez des biens qui ont un rendement pécuniaire très inférieur à son rendement collectif, son rendement social. Quand vous faites baisser les gaz à effet de serre, si vous voulez, ça, c'est pas tarifé par les marchés. Et donc, moi, je ne crois pas du tout que ce soit les entreprises privées qui puissent financer la transition écologique, tout simplement parce qu'on est dans un monde, notamment où la gouvernance est hyper financiarisée, et cette hyper financiarisation, la création de valeur, hein, regardez les dernières déclarations du nouveau DG de Natixis, mon seul objectif est la création de valeur pour les actionnaires, eh bien, là, vous avez, ça court-circuite, quoi, c'est ce que disait McCartney, la tragédie des horizons. Vous avez une économie hyper financiarisée qui nous rabat sur le court terme et vous avez des besoins d'investissement qui sont des besoins d'investissement à long terme sur des projets dont la rentabilité financière est très inférieure à la rentabilité sociale. Donc par définition, c'est l'État.
Vous êtes en désaccord finalement sur le message politique que cela envoie Jean-Marc Daniel.
Oui, je pense d'abord que ça donne l'impression d'une espèce de tour de passe-passe et dans lequel il y a une forme de mensonge. La dette publique, on l'efface, mais la réalité, c'est que quand même, la Banque centrale aura des fonds propres négatifs, son actionnaire, qui est l'État, va avoir dans son organisation bilancielle, il va perdre une partie de ses actifs. À un moment donné, quelque part, et quelque part, ça va affecter la gestion de l'État. Et pour rien, puisque au quotidien, encore une fois, l'État, dès lors que la Banque centrale détient la dette publique, ça lui coûte plus rien. Le deuxième élément sur l'objectif qui est de financer la transition écologique, je pense que effectivement, il ne faut pas mélanger les genres. Je ne vois pas pourquoi ce serait forcément l'État qui serait porteur de ce message, de cette action. Et l'État, comme sur l'action des externalités, il a un outil qui sont les taxes pigoviennes. C'est-à-dire que s'il met des taxes sur le prix du carbone, s'il augmente le prix du carbone et s'il crée un marché du carbone, je peux vous dire qu'il incitera le secteur privé à modifier son comportement et à modifier son action sur le réchauffement climatique.
On a vu avec les gilets jaunes, c'était facile. C'était... Non, je veux dire...
Il y a un problème d'acceptabilité sociale.
Je ne dis pas que ça ne fait pas partie du spectre des mesures à prendre, les mesures prises. Hein. Mais je pense que c'est très... jamais ça ne pourra se faire uniquement par des effets pris, quoi. Et simplement une taxe privée. Il faut utiliser tous les leviers.
Dire à la population que la dette résoudra tous les problèmes qu'il y a aucun effort à faire, c'est lui mentir, et elle le perçoit comme tel. Encore une fois, le prix de l'or est symptomatique. Un deuxième symbole que je trouve intéressant, les gens, effectivement, ont confiance dans les billets. Mais ce qui est intéressant, c'est que les billets, ils sont en train de les thésauriser. Parce qu'ils ont confiance dans les billets, ils commencent à avoir peur dans les banques. Et à se dire que, bon, donc ils achètent des appartements, ils achètent de l'or, et puis ils récupèrent des billets. Et puis il arrive un moment, dans un certain nombre de pays, où le billet qu'ils conservent, c'est plus le billet national, c'est les dollars. Et on l'avait vu au moment de la crise grecque, ça va très très vite. Au moment où il a été envisagé que la Grèce puisse sortir de la zone euro, les Grecs stockaient des dollars et des billets en euros, allemand. Ils avaient repéré qu'elle était sur le numéro qu'il y avait sur les billets qui étaient utilisés normalement en Allemagne, et donc ils stockaient de la monnaie qui leur était extérieure.
Mais on n'en est pas encore là.
Nous n'en sommes pas encore là, mais ça peut aller très vite.
Alors, il y a quand même un problème, c'est que la BCE est indépendante, personne ne peut la forcer à annuler cette dette, Laurence Salom, et elle n'en a pas non plus la légitimité politique.
Mais ça, je sais bien, mais le problème, si vous voulez, c'est que rien n'est gravé dans le marbre. Enfin, je veux dire, quand vous regardez l'histoire longue des banques centrales, le régime d'indépendance qui allait de fait quand même avec l'autorégulation de la finance, une croyance dans le fait que les marchés allouaient toujours bien les ressources, etc., ça a été un moment, si vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un autre moment et qu'il n'y a pas de tabou. C'est un acte politique fort, je veux dire, et il faut penser effectivement à modifier les traités. Alors, soit pour l'annulation de la dette, soit pour le fait que la BCE fasse de la création monétaire plus ciblée via, par exemple, la Banque européenne d'investissement. Enfin, je veux dire, il y a recréer un circuit du trésor. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas d'options qui sont possibles, mais je pense qu'on doit lever des tabous et on ne doit surtout pas raisonner sur des dogmes aujourd'hui. Les enjeux sont considérables et surtout, on a très peu de temps pour agir. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des vieux logiciels, je veux dire, le propre de l'intelligence humaine, hein, c'est de savoir évoluer et de savoir s'adapter en fait aux nouvelles situations. Et là, on est à une situation où, évidemment, il faut être imaginatif.
Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Marc Daniel, de cette idée d'annuler la dette pour permettre à l'Europe d'avancer politiquement? Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé avec la décision prise par l'Union européenne le 21 juillet de s'endetter en commun?
Oui, la position qui a été prise par l'Union européenne, ça a été non pas de masquer une partie de sa dette, mais de rajouter une partie de sa dette en rajoutant un étage. Et donc, je trouve ça dangereux. Alors, à la fois dangereux et je pense que les gens qui ont fait ça ne mesurent pas en réalité qu'ils sont en train de s'enfermer dans l'Europe. Ce que je veux dire par là, c'est que considérer que dès qu'il y a un endroit où il n'y a pas de dette, on va pouvoir lui faire porter de la dette, comme ça les gens ça n'apercevront pas. C'est-à-dire, ce sera plus l'État français qui sera endetté, ce sera l'Union européenne. Bon. Encore une fois, toute cette stratégie qui repose sur le mensonge, sur une forme d'ambiguïté permanente, je pense que les populations n'en sont pas dupes. Et donc, les populations épargnent, les populations essaient de contourner tout ça. Je pense que les populations ont besoin davantage de clarté. Le deuxième élément, c'est que je pense que dans cette affaire, ce qui a rendu difficile, par exemple, la disparition de la Belgique ou l'indépendance du Québec, c'est qu'on ne savait pas quoi faire de la dette partagée. En revanche, la Tchécoslovaquie a disparu très très vite, parce que le régime communiste avait laissé pratiquement zéro dette publique. Le dernier leader communiste, Oussa, qui était un obsessionnel de la dette publique, et il a remboursé toute la dette des 20 premières années du communisme, et il a laissé une Tchécoslovaquie sans dette. Moyennant quoi, ils ont pu se séparer. Et donc, en créant cette dette européenne, on va créer une espèce de dette partagée qui fait que on va souder davantage.
Alors, pour vous, c'est une mauvaise chose, mais pour vous, Laurence Dialogue, c'est précisément l'avantage de cet accord.
Exactement. Cet accord a énormément de défauts. Il n'est pas assez ambitieux. Par contre, ce n'est pas un mensonge. C'est juste un acte, en tout cas, en apparence, de solidarité à l'égard des pays du Sud qui ont été les plus touchés, notamment par la pandémie, hein, et qui malheureusement étaient également ceux qui étaient dans la situation de finances publiques les plus problématiques. Non, ce que je pense, c'est que fondamentalement, la création de l'euro souffre d'une défaillance institutionnelle majeure, qui est le fait que on n'a pas, il n'y a jamais eu d'union monétaire qui a tenu dans le monde comme ça. Hein. C'est-à-dire, on a une union monétaire, on a fédéralisé la création de la monnaie centrale. Par contre, on a, c'est pas adossé un trésor public. Donc, si vous voulez, quand je sais pas, l'État de Californie, par exemple, est en situation de difficulté budgétaire, à aucun moment on se dit que la Californie va sortir du dollar. Nous, quand on a un pays qui se trouve en endettement important, on se pose la question que pour, et donc ça veut dire que on a une union monétaire qui est incomplète, qu'un dollar dans une banque, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans une banque grecque, ne vaut pas un dollar dans une banque allemande. Pourquoi ? Eh bien, parce que celui qui est en charge de rembourser les dépôts en cas de faillite bancaire, eh bien, c'est l'État grec sur lequel il peut y avoir un doute. Hein. Et la grosse différence avec le Japon, c'est aussi qu'on n'a pas une dette fédérale. Et effectivement, les dettes publiques, actuellement, elles sont sorties du marché par l'action de la BCE. Mais si la BCE cesse cette action, immédiatement, les marchés vont comparer les dettes. Et effectivement, là, vous pouvez avoir un éclatement très rapide. Hein.
Mais ce budget en commun permet cet endettement en commun. Voilà, c'est une façon d'apporter un levier budgétaire.
Oui, alors, il est très, très faible. Hein, parce que, franchement, il faut regarder où sont les ressources. Hein. Pour l'instant, on a défini un plan, mais on ne sait pas trop comment on va le financer. Hein.
Jean-Marc Daniel.
Oui, par rapport à cette idée qu'effectivement, on a besoin d'un budget fédéral en face d'une BCE, ça me paraît, pas aussi évident qu'on ne le dit. Concrètement, d'ailleurs, en 2007, les taux d'intérêt sur la dette publique allemande étaient à 4,5% et sur la dette publique grecque à 4,7%. Parce que tout le monde considérait que la dette publique allemande et la dette publique grecque, c'était à peu près la même chose, et que la BCE, elle ne ferait pas de problème pour acheter. La façon dont les Européens ont traité le problème, en faisant appel notamment au FMI. Je rappelle que le rôle du FMI...
C'est ça qui a entraîné le fameux spread, que les taux d'intérêt s'écartent.
Le FMI, il est là pour corriger des déficits extérieurs. C'est-à-dire pour corriger des problèmes de rapport entre un pays et ses créanciers extérieurs. On a vécu la dette portée par les Allemands, enfin la dette détenue par les Allemands vis-à-vis de la Grèce, comme un problème extérieur. Et ce qui était un problème politique, là où je rejoins effectivement, c'est pas un problème de créer un trésor, mais de créer une vision dans laquelle on est vraiment solidaire. Et pour conclure, je pense que quand Mark Rutte, le premier ministre néerlandais, dit « je veux bien être solidaire des Français, mais à condition qu'ils partent à la retraite au même âge que les Néerlandais et qu'ils travaillent pendant le même temps que les Néerlandais », je le comprends.
Laurence Dialogue, un dernier mot.
Écoutez, je suis pas du tout d'accord avec cette position là. Hein. Je pense que dès lors qu'on a choisi d'aller vers l'union monétaire, hein, effectivement, on s'est lié les mains et on est dans la pire configuration de ne pas avoir d'outils budgétaires proprement européens, de ne pas être capable de lutter contre les chocs asymétriques sans que ce soit en permanence des discussions de marchands de tapis. Alors que le fondement d'un budget fédéral, c'est justement d'absorber les chocs asymétriques sans avoir besoin en permanence d'avoir le coup près de l'éclatement de la zone.
Eh bien, un grand merci à tous les deux d'avoir inauguré ce premier débat du vendredi de l'année. Laurence Dialogue, Jean-Marc Daniel. Donc, je rappelle vos livres. Jean-Marc Daniel, La fascination de l'.
Non.
Jean-Marc Daniel, c'est trois controverses de la pensée économique chez Odile Jacob. Et Laurence Dialogue, La fascination de l'ogre, paru chez Fayard. Tout est bon?
Tout à fait, tout est bon.
Merci beaucoup. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et c'est l'heure de la chronique de notre partenaire d'Alternative Économique. Bonjour Catherine André, ravie de vous retrouver.
Bonjour Tiffaine, bonjour à toutes et à tous, et très heureuse de vous retrouver.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur les propositions du manifeste convivialiste.
Oui, tout à fait, et voilà pourquoi. Épidémie de Covid-19, sévère crise économique et sociale avec explosion du chômage et des inégalités, le tout sur fond d'une crise écologique dont les effets destructeurs s'emballent. les menaces écologiques, économiques, sociales, politiques, étroitement imbriquées, viennent s'auto-alimenter. En cette rentrée particulièrement tendue et déprimante, je me suis donc dit que nous avions plus que jamais besoin de revisiter des réflexions de fond qui mènent à des pistes de solutions sur tous ces fronts. Et en voici une, le convivialisme, que j'ai eu envie de présenter à celles et ceux qui ne connaissent pas, alors que nous venons de publier un entretien avec le philosophe Patrick Vivret intitulé « Avec le convivialisme, réunir les forces de la vie contre le néolibéralisme », conduit par Hervé Nathan.
Alors que propose le convivialisme, Catherine André ?
L'idée centrale est, je cite, « d'élaborer une pensée et une intelligibilité du monde alternatives à celles que le néolibéralisme a su imposer à toute la planète », est-il précisé dans le second manifeste convivialiste publié chez Actes Sud peu avant le confinement. Fruit d'un travail de quelque 300 personnalités issues de 33 pays, il se définit comme une philosophie de l'art de vivre ensemble autour de 5 principes majeurs. Le principe de commune naturalité, les humains vivent dans la nature, pas à l'extérieur, de commune humanité, de commune socialité, les rapports sociaux sont notre plus grande richesse, de légitime individuation, le droit d'affirmer sa personnalité, et d'opposition créatrice, la différenciation, au service du bien commun. Ainsi qu'un impératif, le refus de la démesure, de l'hubris, présent notamment au cœur de l'hypercapitalisme financier. Car, je cite, « la démesure est un facteur commun dans le rapport à la question écologique, la destruction de la nature et du vivant, dans le rapport politique, notamment sous sa forme militaire du risque de destruction de l'espèce, et enfin, dans le rapport de l'économie à la société », résume Patrick Vivret.
Est-ce que c'est une utopie, Catherine André ?
Chacun jugera pour lui-même, mais c'est, je cite, un projet positif qui s'exprimera ensuite sous la forme aussi bien économique que politique, qu'éthique ou environnementale, explique Patrick Vivret. Je cite, on voit bien le risque que l'humanité se perde, soit biologiquement, soit moralement, dans une sorte de survivalisme purement biologique qui ne s'embarrasserait pas des valeurs d'une civilité humaine, explique-t-il. Mais on voit aussi la possibilité d'un nouvel humanisme revisité par les principes du convivialisme qui produirait un saut qualitatif vers une pleine humanisation. Si Homo sapiens sapiens n'est pas une origine, comme dit Edgar Morin, ce doit être un projet. Au premier sapiens, qui use de façon coopérative et constructive de son intelligence face aux logiques guerrières et destructrices, il faut adjoindre le deuxième sapiens, celui de la sagesse, intégrant les meilleurs éléments de la modernité, excluant sa part d'ombre, sa part d'hubris.
Et à quoi ressemblerait un monde post-néolibéral ?
Alors une société convivialiste sera nécessairement post-croissantiste, est-il écrit dans le dernier chapitre, où l'on trouvera toute une série de mesures très concrètes. Parmi les signataires français de ce manifeste, on trouve entre autres Alain Caillé, Marc Imbert, Edgar Morin, Claude Alfandéry, Barbara Cassin, Mireille Delmas-Marty, Mathieu Ricard, Florence Janicatrice, Dominique Méda, et des piliers d'alternatives économiques, Denis Clerc, son fondateur, et Philippe Frémaux, éditorialiste et ancien PDG qui vient de nous quitter cet été.
Merci beaucoup Catherine André. Et à la une d'Alter Echo ce mois-ci ?
Alors à la une, nous avons un titre panique chez les économistes. On traite de 10 lois du marché qui simplement ne fonctionnent plus. Il y a également un hommage fait à Philippe Frémaux par Guillaume Duval. Et puis un certain nombre d'autres papiers et enquêtes comme la deuxième vague du chômage à venir ou la 5G.
Merci Catherine, on vous retrouve donc dans un mois. Bon week-end.
Merci.
place à notre nouveau rendez-vous du vendredi. Racontez-moi l'écho, parce que l'économie est partout et qu'elle se raconte tous les jours dans les romans, les pièces de théâtre, les films et les séries. Chaque vendredi, nous nous échapperons quelques instants dans le monde de la fiction. Aujourd'hui, le vent nous mène au sud des États-Unis, en Alabama, dans les années 20. Bonjour Frédéric Spiel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Vous êtes professeur de littérature américaine à l'université de Picardie, Jules Verne, et vous avez accepté de nous parler de Lumière d'août, le grand roman de William Faulkner, publié en 1932. Premier extrait.
Il n'y avait guère plus de 5 familles à l'époque où Lena arriva. Il y avait une voie de chemin de fer et une gare qu'un train mixte, une fois par jour, traversait en hurlant. On pouvait faire arrêter ce train en moyen d'un drapeau rouge, mais le plus souvent, il sortait des collines déboisées avec la soudaineté d'une apparition, et gémissant comme une âme en peine, il traversait ce petit embryon de village comme la perle oubliée d'un collier brisé. Elle avait 20 ans de moins que son frère. Elle se le rappelait à peine quand elle vint habiter avec lui. Il logeait dans une maison en bois brut de 4 pièces, avec sa femme que les grossesses et les soucis de la maternité épuisaient. Chaque année, pendant près de 6 mois, la belle-sœur était soit au lit, soit en convalescence. Pendant ce temps, Lena tenait le ménage et s'occupait des autres enfants. Plus tard, elle se dit à elle-même « M'est avis que c'est pour ça que j'en ai attrapé un, moi-même, si vite. »
C'est avec Lena Grove que s'ouvre le roman de Faulkner. La jeune femme, enceinte de 8 mois, essaye de retrouver Luca Birch, le père de l'enfant qu'elle porte, ce qui l'amène de son Alabama natal à Jefferson, dans le Mississippi. Frédéric Spiel, quelle est alors la situation économique et sociale de ces États du sud des États-Unis ?
Alors, comme vous l'avez indiqué, Lumière d'août est paru en 32. Faulkner a commencé sa composition dès 31. On est à ce moment-là en pleine Grande Dépression, la Grande Dépression ayant été suscitée par le krach boursier de Wall Street en 29. Et donc le Sud, qui a dû faire face à la défaite de la guerre de sécession, suivie à une période de reconstruction très éprouvante, et particulièrement marquée par la Grande Dépression et par une grande misère. D'une certaine manière, il est d'autant plus éprouvé aussi que son fonctionnement, son système agricole traditionnel est compromis par les débuts de l'industrialisation, qui sont marqués dans l'extrait qu'on vient d'entendre, par l'arrivée du train jusque dans les villages les plus isolés.
Et qui sont dans le roman ces habitants du Sud que la défaite face au Nord a fait sombrer dans la misère, Frédéric Spiel ?
Alors, dans l'œuvre de Faulkner, ils sont de plusieurs natures ou appartiennent à plusieurs communautés. On a les fermiers, ceux qu'on rencontre donc en Alabama, d'où Lena est originaire. Et puis, on a aussi les petits commerçants, ceux qui habitent les villes et qui commencent à développer les débuts d'un sud plus moderne et qui profitent du travail des agriculteurs. Jefferson est la capitale du comté du Yoknapatawpha, qui est le comté fictif de Faulkner. Et dans cette petite ville de Jefferson, on reconnaît vraiment le décor tout à fait familier d'une petite ville sudiste, avec son tribunal, son café, évidemment la statue du confédéré, le barbier, l'épicerie. Donc ce sont aussi ces habitants-là, ces sudistes d'une modernité croissante qu'on rencontre chez Faulkner. Mais les deux communautés, les fermiers et les urbains, si on peut dire, hein, ce n'est jamais qu'une petite ville, se rencontrent d'un roman à l'autre.
William Faulkner est né lui-même dans le Mississippi, dans une vieille famille aristocratique ruinée par la guerre de sécession. Est-ce qu'il a connu cette misère qu'il décrit si bien dans ses romans ?
Alors, lui a été épargné par la misère. Il venait quand même d'une famille relativement privilégiée. Donc, il l'a exploré, il l'a observé dans son entourage, mais il ne l'a pas vécu de première main. En revanche, l'argent a été pour Faulkner un problème toute son existence, dans la mesure où, même s'il venait d'un milieu relativement privilégié, comme je l'ai dit, c'était pas un milieu fortuné. Comme vous le savez, il a assez mal vendu ses livres toute son existence, le lectorat étant un problème pour lui. Et du coup, par conséquent, la solution pour lui a été de se faire scénariste à Hollywood pour gagner de l'argent. Mais il a toujours eu des soucis pécuniaires, en fait.
Dans Lumière d'août, la pauvreté que Faulkner décrit est telle que les hommes cherchent tous les moyens de gagner de l'argent autrement, par exemple en jouant au dés ou en trafiquant de l'alcool, ce qui est illégal puisqu'on est en un temps, une période de prohibition, Frédéric Spiel.
Oui, alors dans Lumière d'août, les travailleurs qu'on voit à la scierie, qui est très bien décrite au début du deuxième chapitre, sont essentiellement des travailleurs itinérants, ceux qu'on appelle des hobos dans la tradition américaine ou des vagabonds. Et en effet, le travail précaire qu'offre la scierie ou d'autres entreprises similaires n'est jamais que très transitoire, et on voit en effet les manière dont ces personnages ont recours à d'autres moyens pour s'enrichir, notamment en effet le commerce, la production de l'alcool qui était très 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 demandé à l'époque, d'autant plus que l'interdit de la prohibition pesait sur la vente et la consommation de l'alcool en effet.
Elle pense à l'argent noué dans son baluchon, sous ses mains. Elle se rappelle le premier déjeuner. Elle pense qu'elle peut entrer dans la boutique à l'instant même et acheter du fromage, des biscuits et même des sardines, si elle en a envie. Chez Armstead, elle n'avait pris qu'une tasse de café et un morceau de pain de maïs. Rien de plus, bien qu'Armstead eût insisté. « J'ai mangé bien poliment », pense-t-elle, les mains sur son paquet, sachant qu'il contient les pièces cachées. Se rappelant son unique tasse de café et le bien séant morceau de pain étranger. Songeant, avec une sorte d'orgueil serein. « Comme une dame, j'ai mangé comme une dame. Comme une dame en voyage. Mais maintenant, je peux m'acheter des sardines aussi, si j'en ai envie. »
La misère se perçoit aussi à la fin. À la fin, Frédéric Spiel, cette fin dont parle ici Lena Grove et qui obsède Joe Christmas, le personnage central du roman.
Oui, vous avez raison. Alors déjà, la sardine en conserve atteste de l'arrivée de biens de consommation moderne, entre guillemets, dans la vie de ces paysans. Mais la faim est un enjeu pendant tout le parcours de Joe Christmas, qui est le personnage central de Light in August. C'est la faim, d'ailleurs, au sens d'appétit, qui le rapproche de Joanna Burden, qui dans sa maison préparera pour lui chaque soir une assiette qu'il viendra manger comme un fugitif en passant par la cuisine. Et toute l'ambivalence d'ailleurs de ce personnage dont on ne saura jamais s'il est noir ou s'il est blanc, et c'est un des enjeux principaux du roman, vient dans le fait ou tient dans le fait qu'il a du mal à accepter cette générosité dont il est l'objet. Mais la fin est sans conteste un fil conducteur, vous avez bien raison, et la force de Lena, c'est sa sérénité. Elle la puise également dans l'appétit et le plaisir qu'elle a à manger ces choses simples qui lui apportent une satisfaction éphémère, mais certaine.
La question de la ségrégation raciale est également au cœur du roman. Vous l'avez dit, Joe Christmas est hanté par le sang noir qui coule dans ses veines, sans qu'on sache vraiment si c'est le cas. C'est la représentation qu'il s'en fait, et donc lui ressemble à un blanc, il vit au milieu d'eux. Qu'est-ce qui transparaît dans le roman de la situation économique des Noirs au lendemain de l'abolition de l'esclavage, Frédéric Spiel?
Alors, la manière dont ces petites communautés sudistes ont le plus grand mal, et c'est un euphémisme, à accepter les travailleurs ou le noir, ou simplement la population noire, et de les intégrer. Hein, la reconstruction en ce sens est un échec complet, puisque les lois Jim Crow sont en vigueur depuis 1877 et qu'elles ont mis en place donc une ségrégation systématique dans tous les lieux publics et dans tous les lieux de rassemblement. Donc Joe, qui est blanc mais qu'on suppose noir sans en être certain, navigue entre l'univers des blancs et l'univers des noirs, On le voit errer en marge d'un monde et de l'autre, et son errance évidemment est aussi identitaire et existentielle, dans la mesure où lui-même n'a aucune certitude quant à son identité. Donc c'est ce malaise, en fait, ce malaise viscéral qu'incarne ce personnage dans l'impossibilité des communautés à s'accepter l'une l'autre et à vivre ensemble.
Merci beaucoup Frédéric Spiel de nous avoir fait découvrir Lumière, doute et l'économie selon Faulkner. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage L'idiotie dans l'œuvre de William Faulkner, paru aux presses universitaires de la Sorbonne Nouvelle. Un grand merci.
Merci à vous.
C'est la fin de votre magazine d'économie. On se retrouve lundi pour une table ronde d'actualité. Peut-on réparer la mondialisation? On en parlera avec François Guérolf, Cécilia Bellora et Laurence Daziano. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.